CQFD.
Imaginez appuyer sur un bouton et pouvoir, sans autre manipulation, stocker un fichier dans de l'ADN, puis des années plus tard, le relire. C'est l'objectif d'un projet qui est mené par l'Université de Genève et la Haute École Arc Ingénierie à Saint-Imier. Et pour cela, une plateforme qui regroupe différentes technologies et différents savoir-faire européens est en cours de fabrication. Manon Germont, vous nous emmenez d'abord à Genève.
Oui, nous allons rencontrer Pierre-Yves Burgy. Il est directeur adjoint à la division d'information de l'Université de Genève. Il est à la base de ce projet et il nous rappelle les avantages de l'ADN pour le stockage de données.
D'abord, on part du principe qu'il n'y a pas vraiment d'obsolescence d'autres moyens magnétiques ou optiques. Pourquoi ? Parce qu'on dit que tant qu'il y aura de la vie, on sera toujours capable de relire l'ADN. La deuxième chose, donc, c'est la densité. Donc, c'est une densité inégalée jusqu'à présent. Par exemple, dans 100 grammes d'ADN, on peut stocker plusieurs dizaines d'exabytes. Donc, je rappelle, un exabyte, c'est 1000 terabytes ou 1 million de gigabytes. Donc, c'est des volumes qui sont énormes. Si on prend tout ce qui a été produit aujourd'hui dans le monde, au niveau numérique, on pourrait tout mettre dans un volume qui est un carton de chaussures avec l'ADN. Donc, c'est pour dire la densité d'information qu'on peut mettre dans cette molécule. Et puis, une autre particularité, c'est sa longévité. On a retrouvé des bouts d'ADN dans des os, par exemple, dans 1 million d'années. Donc, aujourd'hui, on a des procédés qui permettent de conserver cet ADN à des températures ambiantes pendant des milliers d'années. Donc, ça, c'est aussi un avantage, sans utiliser de l'énergie. Aujourd'hui, il faut voir que les procédés magnétiques utilisent beaucoup d'énergie pour stocker l'information. Donc, là, on aura encore un avantage certain.
Mais aujourd'hui, pour ce type de stockage, il faut une intervention humaine. Le but du programme européen qui nous intéresse aujourd'hui est de réussir à pouvoir s'en passer et automatiser toutes les étapes.
Le moment où on l'extrait, par exemple, du flacon et on voudrait le relire avec du séquençage, là, c'est vraiment des manipulations qui sont assez pointues. Il faut être biologiste pour le faire. Et donc, l'idée, c'est d'automatiser toute cette chaîne de manière à ce que n'importe qui derrière son ordinateur puisse actionner ce système robotique, mais qui nécessite une robotique spécifique également.
Et ce développement se passe actuellement à la Haute École Arc Ingénierie à Saint-Imier.
Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que la source d'inspiration, c'est une machine destinée à l'horlogerie. Une micro-usine, c'est-à-dire un espèce de bloc en bois de 2 mètres sur 2 mètres, avec des casiers dans lesquels différentes opérations sont produites. Que ce soit par exemple le fraisage d'une pièce, le calcul de ses dimensions, le contrôle de sa qualité. En fait, le tout grâce à 2 robots. On retrouve sur place Sylvia Angeloni-Souter, elle est experte en gestion de projets d'innovation, et Patrick Neuenschwander, responsable du groupe Autonomisation Industrielle, tous deux à la Haute École Arc Ingénierie.
C'est quoi comme étape là? Ça ponce, ça coupe?
C'est du fraisage. On va dans la matière aller avec une fraise et faire les différents usinages.
On appelle cela micro-usine parce qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, typiquement dans une usine horlogère, toutes ces étapes sont quelque part un peu éparpillées dans l'usine. Donc par contre là, dans un espace justement de 2 mètres x 2, on a mis ensemble toutes les étapes qui sont déployées dans une usine entière.
Puis on a donc un bras robotique qui peut déplacer les pièces pour les différentes étapes en fait de la micro-usine.
Exactement, ça c'est un robot smart qui est complètement autonome. Comme vous voyez, il se balade en sécurité pour lui et pour nous dans les laboratoires. Et justement, il est capable d'amener les différentes pièces d'une bloc, d'une niche à l'autre.
Ouais, je vais manger, hein.
Vous êtes un intrus dans la zone.
Oui, c'est ça, mais c'est bien, il m'a repéré.
Bon, l'intruse, allez, dites-moi si j'ai bien compris. Donc l'équipe de recherche veut trouver un moyen d'automatiser entièrement le processus de stockage de fichiers dans de l'ADN. Et pour ce faire, elle s'inspire de micro-usines qu'on trouve dans le monde de l'horlogerie et qui font beaucoup de bruit, comme on vient d'entendre.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en effet, avec cette micro-usine, ce sont des pièces solides qui sont travaillées. La future plateforme, qui devrait permettre le stockage dans l'ADN, devra, elle, manipuler d'infimes doses de liquide. Et pour cela, ce sera certainement un bras auquel sera fixée une pipette. Celle-ci permettra de transférer le liquide d'une étape à une autre, le tout en se basant sur des technologies existantes et utilisées en biologie notamment.
On n'est pas intéressé à développer notre propre technologie, mais au contraire à intégrer des technologies existantes et les faire parler entre eux. Et ça, c'est un exemple, c'est une machine qui est capable de manipuler les liquides en petite quantité, donc entre 1 microlitre et 1 millilitre. Ça, c'est une machine qui existe sur le marché, que nous avons utilisée justement comme référence. Si aujourd'hui, une machine meilleure que celle-là entre sur le marché, eh bien, l'idée est que dans notre plateforme technologique, elle puisse être intégrée.
Alors, on a compris qu'à Saint-Imier, le but est vraiment de pouvoir regrouper des procédés qui existent déjà, de les faire communiquer entre eux. Mais concrètement, quelles sont les étapes pour passer d'un fichier informatique à son stockage dans de l'ADN synthétique?
Alors, pour mieux comprendre, écoutons Pierre-Yves Burgi, le directeur adjoint de la division d'information de l'Université de Genève. Il explique que tout commence avec un document, donc une photo, un texte, une vidéo ou un son. Et pour que l'ordinateur puisse l'utiliser, ce document est transformé en données numériques, c'est-à-dire en une suite de 0 et de 1. C'est ce qu'on appelle le système binaire.
Une première phase, c'est l'encodage, décodage. Donc le codage va passer d'un système binaire à un système quaternaire qui correspond aux quatre lettres des nucléotides de l'ADN, c'est-à-dire ACGT. À la fin, on a toujours un fichier, au lieu d'avoir donc, des 0 et 1, on a ces lettres. Actuellement, ce que je fais, moi, je les envoie par email à San Francisco, où il y a une entreprise qui est spécialisée dans la synthèse de l'ADN. Ils ont les machines pour synthétiser donc des méthodes chimiques. Ils vont produire lettre par lettre ces différentes chaînes. C'est un peu comme des imprimantes à jet d'encre. Au lieu d'avoir de l'encre, eh bien, ils ont des nucléotides. Ils vont injecter des A, des C, des G, des T, donc recréer des chaînes. Et une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils envoient par la poste l'ADN dans un petit tube qui est refroidi, en fait. Et on le reçoit avec un gros carton, avec beaucoup de glace dedans. Et puis après, c'est à nous de nous en préoccuper pour bien le conserver à des températures assez froides, parce que l'ADN à température ambiante s'abîme assez vite, en fait.
Pour simplifier, on peut se dire que les lettres sont les ingrédients d'une recette de cuisine. Puis, des molécules sont assemblées selon celles-ci pour obtenir des brins d'ADN synthétiques. Pierre-Yves Burgi nous explique maintenant comment relire les fichiers.
Il va falloir donc amplifier d'abord cet ADN pour sélectionner en particulier les bons fichiers qu'on veut relire, puis les séquencer. Une fois qu'on a séquencé, on retrouve donc des fichiers avec les lettres. Malheureusement, dans ces fichiers, il y aura des erreurs parce que le séquençage n'est pas parfait, donc il introduit des erreurs. Et donc, le décodage, il va devoir, d'une part, corriger ces erreurs et reconvertir les lettres vers du binaire. Et à ce moment-là, on aura notre fichier qui pourra être rendu à l'archiviste. Donc, ça peut être du texte, ça peut être des images, de la vidéo, ça n'a aucune importance puisqu'on travaille avec du binaire, en fait.
À Genève, ils ont testé et le fichier d'un logo a pu être stocké, puis rouvert.
C'est quand même un succès, sachant qu'à la base, on a envoyé ce fichier aux États-Unis et puis on est revenu avec de l'ADN dans un petit flacon qu'on a ensuite amplifié, qu'on a séquencé, qu'on a redécodé et on a l'image qui nous revient qui est sans erreur.
Ce n'est pas une première, ce procédé a déjà fait ses preuves, mais là, le but est d'aller encore plus loin.
La particularité, c'est qu'on utilise un environnement archivistique, c'est-à-dire qu'on est parti d'une plateforme qui s'appelle Yaretta, qui est vraiment orientée archivistique, avec des formats pour les archives. Et ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. On n'a pas juste l'image qu'on veut encoder, mais on a beaucoup d'informations autour, qu'on appelle des métadonnées, sur la provenance, sur toutes les opérations qui seront effectuées au cours du temps sur ces fichiers.
Et maintenant, à quoi pourrait ressembler cette machine qui devrait permettre le stockage de fichiers dans de l'ADN?
Alors, pour le savoir, on retrouve Sylvia Angeloni-Souter, elle est experte en gestion de projets d'innovation, et Patrick Neuenschwander, responsable du groupe Autonomisation Industrielle à la Haute École Arc, ingénierie à Saint-Imier.
Tout se fait au travers d'une interface web, puis voilà, comme un file transfert, on va le transférer dans le système d'archivage.
Et en appuyant un bouton, on pourra stocker des données numériques sous forme d'ADN, et avec peut-être un bouton différent, on pourra récupérer et recomposer une image ou un texte digital. Ça veut dire qu'on commence à pouvoir, par exemple, stocker facilement aussi des images médicales dans le domaine de la diagnostic. Donc, on commence à avoir des applications vraiment très concrètes. D'ailleurs, on travaille en collaboration avec les archives locales de l'art jurassienne qui justement collectionnent toute une planopie de documents qui font partie vraiment à l'ingénierie industrielle horlogère. Et ils sont intéressés à trouver des systèmes vraiment de stockage qui dure dans le temps et qui ne soit pas cher. Parce que ça aussi, c'est aujourd'hui stocké dans l'ADN, évidemment, ça a un coût. Bah, l'idée, c'est de porter cette technologie à un niveau qu'on puisse vraiment, comment dire, passer les caps et voir les coûts descendre.
De savoir les coûts baisser dans le but d'une commercialisation d'ici 2030 avec un prototype attendu pour fin 2027.
Merci beaucoup Manon Germont, vous nous présentiez donc ce projet européen mené à Genève et à Saint-Imier qui vise à sauvegarder nos archives dans l'ADN et ben voilà, comme vous dites, c'est peut-être pour dans quelques années. C'est marrant parce qu'on vous présente ça aujourd'hui parce qu'on n'y connaît pas grand-chose en fait, hein, c'est vraiment novateur. Je me dis, mais c'est peut-être la même chose quand on commençait à parler des premiers ordinateurs ou d'une souris, comment ça marche une souris d'ordinateur. Puis aujourd'hui avec le recul, ça nous fait rigoler, peut-être qu'un jour ça nous fera rigoler aussi de réentendre une séquence comme celle-ci.
C'est possible.
Parce que ça deviendra peut-être un jour notre quotidien. Merci beaucoup Manon Germont.